Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélian Vard, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Mathieu Leroux. Aujourd'hui, nous recevons Christian Merle et Pierre Canouy, pour parler de Paul Diehl et de la psychologie de la motivation. Bonjour à tous les deux.
Bonjour
Lélie.
Bonjour à tous. Alors, avant toute chose, nous souhaitions, Frédéric et moi, remercier les auditeurs qui nous écrivent pour nous faire part de leurs remarques et qui nous font des suggestions. En l'occurrence, ils nous ont suggéré, plusieurs de nos auditeurs ont suggéré une émission sur Paul Diehl. Et comme nous nous efforçons, dans la mesure du possible, évidemment, de réaliser vos souhaits, nous y voilà donc. Nous avons invité deux spécialistes de la question. Pierre Canouy, vous êtes psychiatre et président de l'Association de la psychologie de la motivation, basée sur les concepts élaborés par Paul Diehl. Et Christian Merle, praticien thérapeute, vous êtes président de l'Association des logothérapeutes francophones, logothérapie à laquelle nous avons consacré une émission cette année. Et en même temps, vice-président de l'Association de la psychologie de la motivation. Donc, vous êtes tous les deux tout à fait engagés dans une démarche et aussi une pratique, en fait, de cette psychologie de la motivation inspirée par Paul Diehl. Et vous allez aujourd'hui nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi c'était si important, aux racines du ciel, de faire une émission sur Paul Diehl.
Et oui, Lily, parce que effectivement, il y a au moins trois grands psychologues au XXe siècle qui se sont intéressés à la dimension spirituelle de l'homme. Jung, Viktor Frankl et Paul Diehl. Nous avons déjà fait des émissions sur Jung et Frankl. Il manquait Paul Diehl, donc voilà, nous sommes ravis de vous inviter pour en parler. Je vais commencer avec vous, Pierre Canouy. En quelques mots, déjà un élément un petit peu biographique pour savoir qui est Paul Diehl, et puis déjà répondre aussi à la question pourquoi est-ce que finalement il est beaucoup moins connu aujourd'hui en France que ne l'est par exemple Jung.
Alors, Paul Diehl est effectivement peu connu, et pourtant ses livres sont vendus et sont réédités régulièrement aux éditions Payot, et donc cette connaissance, elle existe malgré tout, mais c'est vrai qu'on en parle peu, et je vous remercie qu'on ait l'occasion d'évoquer un petit peu les grandes pans de sa pensée et la force de sa réflexion, tant sur le plan de la pensée que sur le plan de la psychothérapie. Alors, Paul Diehl est né le 11 juillet 1893 à Vienne. Il est mort à Paris le 5 janvier 1972. Et il a une biographie qu'on peut résumer assez facilement et assez rapidement, parce qu'il a surtout travaillé, écrit de très nombreux ouvrages, et toute son œuvre, dont on parlera tout à l'heure, et vraiment le noyau dur de son travail. Il est né de mère allemande et de père inconnu, et il a été orphelin à 13 ans, élevé dans un orphelinat, et grâce au soutien d'un tuteur, il a pu faire des études, non pas universitaires, il a fait des études jusqu'au baccalauréat, et puis après, il a pu se cultiver, et d'une part, travailler, il a voulu écrire, comme il a été acteur, il a été romancier, il a été poète aussi, mais il s'est tourné définitivement vers la psychologie, et la psychologie introspective, la psychologie des profondeurs, et il a été pétri d'une part des études de Freud, d'Adler, de Jung aussi, mais aussi de la philosophie, c'est-à-dire qu'il est profondément ancré dans la philosophie, comme on peut le lire dans ses textes, dans tous ses ouvrages, de Kant à Spinoza. Il va s'intéresser aussi à la physique et aux théories de l'évolution, si bien qu'il y a eu un échange avec Einstein en 1935. Il y a eu quelques lettres, de très belles lettres, entre Diehl et Einstein en 1935, puis en 1937. Et c'est en 1938, à cause de l'Anschluss, qu'il va se réfugier en France. Il sera à ce moment-là interné en raison de sa nationalité étrangère dans le camp de Gurs au sud de la France. Et après la libération, il va entrer au CNRS. dans le laboratoire de psychobiologie d'Henri Vallon et il va travailler comme psychothérapeute dans ce laboratoire et continuer ses études, ses travaux sur, d'une part, le fonctionnement psychique, mais aussi sur l'élucidation du sens caché des symboles, aussi bien dans la mythologie grecque que dans les textes bibliques, les rêves et les symptômes psychopathiques. Et là, il a écrit des textes extrêmement importants sur la divinité, le symbolisme dans la mythologie grecque, avec une introduction et une préface, plutôt une introduction de Gaston Bachelard. Et puis son livre central, si je peux dire, c'est la psychologie de la motivation. C'est la psychologie de la mission sur laquelle sont posés les problèmes non seulement psychologiques, analytiques, introspectifs, et aussi toute la dimension humaniste avec la question centrale qui est dans la pensée de Diehl. On en parlera tout à l'heure, c'est la question du sens qui est quelque chose de fondamental puisqu'il pose la question éthique au sens de la réflexion. La destinée morale pour lui est fondamentale, morale dans le sens de l'éthique de l'homme est fondamentale. Et donc, il a fait toute sa vie un enseignement oral et enseignement écrit. Et il est mort en 5 janvier 1972 à Paris. Et actuellement, il y a 2 associations qui continuent la pensée, qui est d'une part l'association de psychologie de la motivation, qu'il a créée en 1964, et puis une autre association, qui est l'association de psychanalyse introspective, qui a été créée en 1994 par Janine Solotareff et par Jacques de Saint-Georges.
Christian Merle, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Oui, j'ajouterais simplement que c'est un homme qui a été quand même marqué par l'épreuve. Hein, parce qu'il a une enfance, il a vécu son enfance dans un orphelinat jusqu'à l'âge de 13 ans. Hein. Il est entré au lycée à 11 ans, mais à 13 ans, sa mère enfin est venue le chercher pour ne vivre finalement qu'une seule année de bonheur intense avec elle, puisque sa mère est décédée à l'âge de 42 ans d'un cancer du sein. Donc il s'est retrouvé seul. Il ne faut pas oublier que, pour vous donner une idée, Diehl a pour la première fois eu un appartement à lui à l'âge de 63 ans. Mmh. Donc il a vécu vraiment une vie d'épreuve.
Dans une insécurité.
Pardon ?
Une insécurité.
Une insécurité. Et en même temps, je pense que cette vie d'épreuve a aussi creusé en lui, voyez, et a permis à Paul Diehl d'avoir cette force de... Cette force capable de sentir quels étaient les mouvements de sa délibération intime.
Quelle est finalement l'originalité de sa psychologie de la motivation ? Comment est-ce qu'on pourrait définir ce courant psychologique par rapport aux autres qu'on connaît ?
Alors, si on essaye de mettre quelques mots, on mettrait le mot psychanalyse, dans le sens non pas de la prééminence sexuelle, mais dans le sens du travail sur l'inconscient, sur la présence de la problématique inconscience et de la symbolique, et de la symbolique des symptômes. On mettrait le mot introspectif. C'est-à-dire que Diehl a été l'un des personnes importantes qui a pensé que l'introspection n'était pas que morbide, et était possible pour l'homme, et que l'homme qui cherche à penser sa vie et à vivre sa pensée, c'est une de ses formulations, eh bien, c'est une pensée introspective qui est enracinée dans l'ici et le maintenant et dans la réflexion par rapport à soi. On la poserait aussi comme une pensée humaniste, la question de la liberté, la question de l'amour, la question de la solitude, la question de la mort, de l'angoisse de la mort, qui a une posture importante.
Oui, il parle beaucoup de la peur et de l'angoisse.
Beaucoup de la peur et de l'angoisse, et il introduit cette dimension de l'angoisse de la mort comme étant non seulement quelque chose de foncier dans l'homme, mais quelque chose de porteur aussi. Et puis, la question du sens de la vie, c'est-à-dire, est-ce que la vie a un sens ? Est-ce que je peux trouver sens à la vie ? Et cette question, je dirais, du sens est fondamental dans la pensée de Diehl, oui, donc, et dans sa psychologie et dans sa psychothérapie.
Donc c'est un psychologue et un philosophe existentiel, en fait. Il s'intéresse à l'action de l'existence.
Absolument. Il pose les questions de l'existence et il ne veut pas contourner les grandes problématiques. Et même, il va beaucoup plus loin. Parce qu'il pense que c'est en posant ces questions que probablement on peut retrouver cet équilibre ou cette harmonie intérieure et peut-être la joie.
Et il reconnaît aussi sa dette envers, évidemment, Freud, Adler, Jung. D'abord, je voulais savoir, est-ce qu'il les a connus, parce qu'il était en Autriche, personnellement, ou est-ce qu'il s'est simplement fondé sur les écrits, en tout cas, de Freud? Et en quoi il est différent? En quoi il a ce qu'il a pris de Freud, et en même temps, en quoi il est allé plus avant?
Christian Merle.
Oui, je veux bien répondre à cette question, parce qu'en fait, je ne pense pas que Diehl ait connu, personnellement, Freud et Adler. Pourtant, il reconnaît le génie de Freud.
Absolument, oui, il y a des textes dans lesquels il...
Seulement, si vous voulez, la différence entre Freud et Adler, c'est que dans le refoulement, dans la notion de refoulement, Freud y met surtout des refoulements d'ordre sexuel. Tandis que Diehl y met finalement tout type de refoulement. Vous voyez, c'est-à-dire tout ce qu'il appelle nos désirs exaltés, nos désirs qui ne sont pas réalisés, sont refoulés et donc mis dans cet grand endroit de nous-mêmes qu'on appelle le subconscient, si vous voulez. Donc c'est ça la grande différence par rapport à Freud. Mais il s'est aidé de Freud, hein, et il s'est évidemment aidé de Adler également. Hein. Et je dirais, pour compléter, que les éclairs de génie de Diehl se situent à deux niveaux, me semble-t-il. Hein. C'est le premier niveau, c'est qu'il ait pu comprendre que l'homme était mu, animé par le mystère. Ce que d'aucuns appellent Dieu, pour lui, c'est le mystère. Le mystère qui est à la fois un mystère extérieur, l'effroi devant la dimension de l'univers, mais aussi l'émerveillement devant l'univers, et aussi une dimension intérieure. Qui suis-je ? Problème de la mort ?
L'énigme de l'existence.
L'énigme de l'existence. Mmh, et c'est cette énigme de l'existence qui va animer l'homme. Et qui va faire en sorte que l'homme va vouloir donner un sens, si vous voulez. Ça va orienter. C'est ce qu'il appelle l'esprit. Mmh. Diehl parle d'esprit dans le sens où, eh bien, c'est cette instance de nous-mêmes, qu'il appelle encore le surconscient, mais aussi le désir essentiel, hein, qui consiste à animer l'homme et faire en sorte que celui-ci, eh bien, puisse trouver un sens à l'existence.
Oui, donc un peu à la suite de Jung, il a voulu élargir la psychanalyse freudienne à la dimension du sens de la vie, de la recherche du sacré, qu'il estime comme une des dimensions anthropologiques fondamentales.
Oui.
Et est-ce que ce n'est pas ça la raison pour laquelle il est aussi moins connu que ses prédécesseurs? Est-ce que notre époque n'est pas un peu, en tout cas dans le domaine psychiatrique et psychologique, n'est pas scientiste et ne se refuse pas à cette dimension-là?
Je crois que c'est une excellente...
C'est le médecin psychiatre qui répond, qui connaît bien les deux dimensions.
Oui, parce que c'est vrai qu'on est quand même, dans notre pensée scientiste, on est quand même fondamentalement sur une pensée dichotomique, c'est-à-dire l'esprit, le corps, et la dimension monadique de la pensée diehlienne, de l'unification et de la pensée qu'il n'y a pas d'esprit sans corps et de corps sans pensée, c'est quelque chose qu'on a probablement du mal à penser ou à faire penser. Donc je crois que vous avez raison. C'est-à-dire que tantôt on veut le propulser dans des... presque dans des mystiques, par, oui, certains aspects, puisqu'il parle de Dieu. On peut parler de Dieu sans être mystique, on peut avoir la foi sans être... croyant forcément.
Et on peut être mystique sans être rejeté.
Et on peut être mystique sans être rejeté de la communauté scientifique. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose. Il pose une anthropologie différente et une épistémologie différente, dans la mesure où il pose la question de mystère et apparition, et que, avec l'idée que notre esprit humain est capable de penser jusqu'à un certain point, et il pose comme une acceptation que le fait qu'on accepte de ne pas pouvoir penser au-delà, mais en même temps que cette notion symboliques, ces notions de Dieu, sont fondamentales parce qu'elles sont représentatives de fonctions psychiques intérieures dont on a vraiment besoin. Besoin non pas seulement pour exister dans son intégralité de notre être.
Alors justement, dans ce texte que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé, hein, qui s'intitule « La divinité », il s'en explique justement de ce rapport entre la science et ce que lui considère comme étant l'essence de l'homme et l'essence du divin. La science nie l'existence de Dieu et de l'âme. C'est en quoi elle a tort. Symboliquement, Dieu et l'âme existent et ont depuis toujours existé sous la forme d'images ayant indiscutablement exercé l'influence la plus déterminante sur l'histoire humaine. Les symboles sont des réalités historiquement existantes et leurs significations sous-jacentes concernant les conflits des motifs sont des réalités psychologiquement existantes. D'où s'ensuit, comme il vient d'être constaté, que le principe méthodologique des sciences humaines devrait être la distinction claire entre le mystère appelé Dieu et son effet manifeste, le monde, existant sous les deux aspects, matière et esprit, objet matériel et esprit préconscient, organisateur et finalement explicateur. Cette distinction méthodologique est indispensable également pour le mystère de l'âme et son effet manifeste et l'élan animant à force évolutive qui conduit au niveau humain à la vie psychique constituée par des objets psychiques, les désirs, et par l'esprit juste ou faux, valorisateur de ces désirs.
Voilà, ça résume quasiment bien, si vous voulez, la pensée de Diehl. Et j'allais dire presque, elle donne le fil conducteur du fonctionnement psychique, voyez, parce que on part de nos pulsions, matérielles, sexuelles et évolutives, hein, que Diehl appelle également pulsions spirituelles. Ces pulsions sont confrontées finalement à l'extérieur, c'est-à-dire à nos sensations, à nos cinq sens finalement, pour devenir des désirs. Hein. Et ensuite, alors, ces désirs qui vont être transformés en pensées, en sentiments, en volitions. Hein. Mais à partir de là, il peut y avoir différentes possibilités. Et pour résumer, si vous voulez, il peut y avoir deux grandes possibilités. La première, c'est de satisfaire, j'allais dire, ces désirs que Diehl appelle matériels ou sexuels, et ces désirs accidentels. Et la deuxième possibilité, eh bien, c'est justement d'utiliser cet élan animant pour donc utiliser ou se servir de notre dimension spirituelle pour eh bien, essayer de trouver un sens et de valoriser nos désirs essentiels. Donc, il y a ce moment précis où l'homme fait un choix, et c'est sa responsabilité, où eh bien, je choisis de satisfaire mes désirs accidentels, ou alors, par l'esprit, par sa dimension surconsciente, eh bien, je choisis d'harmoniser ces désirs. Voyez. Donc, et c'est ça l'idée de la dimension spirituelle de l'homme, c'est qu'elle a pour objectif, cette dimension, d'harmoniser nos désirs. Donc de faire un tri, de hiérarchiser nos désirs, de manière à apaiser la personne. Et c'est ça le deuxième, j'allais dire, éclair de génie de Diehl, c'est qu'il a compris que les mythes grecs étaient révélateurs, justement, de la dynamique psychique de l'homme. C'est-à-dire que tous les mythes grecs, sans exception, mais aussi le mythe chrétien, étaient révélateurs de ce qui se passait dans notre fort intérieur.
Oui, parce qu'effectivement, c'est intéressant ce que vous dites là, sur le désir, l'harmonisation des désirs, les choix à faire. On retrouve ça dans toutes les écoles de sagesse, aussi bien celle de l'Antiquité que chez Spinoza, etc. C'est vraiment l'idée que l'homme doit harmoniser ses désirs. Mais l'apport supplémentaire de Diehl, c'est d'avoir faire le lien avec la mythologie. Et donc, c'est là qu'il est très, très complet, parce qu'il éclaire la pensée philosophique par la mythologie réciproquement. Et il incarne tout ça dans une pratique thérapeutique.
Alors, simplement, ce que vous dites, ça me permet de montrer que Diehl a, mis en place une méthode rigoureuse, voyez. Et c'est ça l'idée aussi. Diehl voulait absolument que sa méthode soit très rigoureuse. Donc, il n'a laissé la place à pas du tout de spéculation. Et c'est ça l'idée. Il n'y a pas de spéculatif dans son discours, voyez. Il a éliminé lui-même tout ce qu'il pouvait faire... Ce qui pouvait être d'ordre spéculatif. Hein.
Et donc, au sens métaphysique du terme, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à faire une métaphysique. Il reste pratique et concret, voilà. C'est-à-dire s'appuyant toujours sur l'expérience qu'il a de la relation avec les autres. J'imagine oui. Qu'il a fondé sa psychologie sur son expérience.
Absolument. Oui. Il a fondé sa psychologie sur son expérience, sur son travail, sur ses lectures. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'important. C'est qu'il met... Il réconcilie beaucoup de choses en l'homme, des créations, je dirais, mythologiques et aussi des religions. Pourquoi ? Toutes les histoires mythologiques qui nous parlent tant, finalement. On est toujours happé si je vous raconte une histoire. Si vous me racontez une histoire, je l'écouterai avec toutes mes oreilles et ça va me toucher profondément. Et l'idée intéressante, c'est qu'il dit au fond que n'ayons pas simplement des mythes qu'une lecture soit historique, soit linguistique, soit, je dirais, de connaissance des différentes civilisations, mais il est possible que ces mythes, expression du surconscient,
les archétypes
jungiens, eh bien, que ces mythes soient des symbolisations d'ordre psychologique et qu'encore ou toujours maintenant, ça nous parle. Et à partir de là, on peut avoir des lectures qui vont être différentes sur le plan phénoménologique ou de l'histoire, mais qui vont nous parler et qui vont nous raconter notre histoire. Les héros mythiques, c'est nous. Alors, on n'est pas des héros. On est des héros vainqueurs, on est des héros vaincus.
Mais disons, ce
sont nos problématiques, voilà, nos problèmes psychiques, qui, avec cette dimension de conflit. Et puis on a nos armes psychologiques, nos armes qui nous ont été données. Et donc il y a une espèce de théâtre comme ça qui se déroule, dans lequel est introduit aussi, non pas seulement la dimension subconsciente développée par Freud, mais aussi la dimension qu'il évoque, cette dimension surconsciente, essentielle, c'est-à-dire que nous avons un désir d'harmoniser, de poser les choses, et que peut-être c'est en posant tout ça et en écoutant cette surconscience en nous, qui est un petit peu le résidu, on pourrait dire, de l'instinct animal, que peut-être qu'on peut trouver une petite voie dans cette problématique du sens de la vie.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous sommes en compagnie ce matin de Christian Merle et Pierre Canouy pour parler de Paul Diehl et de la psychologie de la motivation. Alors, nous avons déjà un petit peu abordé les fondements philosophiques de sa pensée. Je crois que Lélie, vous vouliez revenir sur la dimension morale.
Oui, en fait, parce que vous avez parlé évidemment d'harmonisation des désirs, vous avez employé le mot se réconcilier, je suis tout à fait d'accord, effectivement, c'est ce qu'on lit dans les œuvres de Paul Diehl, mais par moments, quand on lit ce qu'il écrit, on est quand même aussi saisi d'une sorte d'inquiétude, une inquiétude morale, parce qu'il nous renvoie à nos propres, alors d'un côté à notre propre survalorisation morale de nous-mêmes, ou alors à notre abandon des valeurs morales au nom de la primauté, je dirais, du désir matériel. Et en fait, il montre bien qu'il y a deux pôles là, qui sont deux écueils. Et je trouve que toute la subtilité de sa pensée morale, qui est extrêmement exigeante, c'est pas du tout quelqu'un qui va vous dire « Ah ben non, il faut vivre selon ce qu'on est », etc. Pas du tout, c'est quelqu'un qui est d'une exigence extrême, presque à vous en mettre mal à l'aise, mais je dirais que c'est un malaise comme celui que ce qu'on pouvait ressentir peut-être quand on était face à Socrate. C'est-à-dire qu'il vous met devant quelque chose, une exigence de lucidité qui est très forte. Et j'aimerais que vous reveniez là-dessus, c'est-à-dire sur ce que c'est que pour Paul Diehl la réalisation éthique ou morale de l'individu, mais morale évidemment dans le sens le plus noble du terme. Pierre Canouy ou...
C'est probablement le noyau dur de la pensée. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on ne lit pas beaucoup. Parce que cette dimension morale peut faire penser qu'on est dans un moralisme et donc dans un dogmatisme, et Diehl a attaqué beaucoup tous les ismes de la pensée qui sont représentatives de toute rigidité de la pensée. Et c'est vrai que cette morale qu'il pose, il la pose dans la dimension, on dirait plus dans la dimension éthique voilà. que la dimension morale, c'est-à-dire dans les grandes règles morales de vie dont on a besoin pour vivre en société, pour vivre qui sont utiles. Mais cette dimension éthique, c'est cette aspiration que tout être humain, dès la naissance, je suis pédopsychiatre, et le bébé a aussi cette exigence éthique de sens dans ce qu'il vit. Et cette dimension éthique, il la pose comme le fait que nous avons besoin de pouvoir poser nos désirs dans un accord. Dans ce sens-là, ça me permet de faire un détour, si je peux dire, c'est la psychologie de la motivation, c'est une, je l'appelle aussi une psychologie introspective du lien. C'est-à-dire la psychologie introspective des liens. C'est-à-dire que cette éthique, elle est le lien de moi à moi-même. C'est aussi un lien de tous mes désirs entre eux. C'est le lien aussi du monde extérieur et du monde intérieur qu'on peut poser un petit peu comme ça. J'ai une aspiration par rapport au monde extérieur et ce lien entre le monde extérieur et le monde intérieur est important. Mais aussi, c'est le lien aussi par rapport aux autres. Donc, il y a la dimension sociale de la pensée qui est extrêmement importante et ces liens qui vont se relier, qui vont se délier, qui vont être en conflit, c'est toute la problématique éthique qui se pose dans la question du sens. Est-ce que le sens de la vie m'est donné a priori ou est-ce que le sens de la vie m'est donné dans cette recherche, mais avec l'idée, et c'est une des idées de Paul Hielfort, c'est-à-dire que cette idée que chacun d'entre nous avons besoin d'un équilibre harmonieux, mais pas simplement dans notre petit extérieur. Petit, ça paraît un petit peu dévalorisant. Mais dans notre extérieur, mais aussi dans notre intérieur. Et cette recherche éthique n'est pas réservée aux grands penseurs. Elle est pour chacun d'entre nous et elle est fondamentale dans notre être le plus profond.
Mais en même temps, il parle quand même de cette question de justice immanente tout en s'inscrivant en faux contre la fausse et la mauvaise culpabilité. À nouveau, il tient ensemble ces questions qui sont très, très difficiles, devenues très difficiles de nos jours à cause de cette critique que nous faisons, à juste titre, d'une morale qui est devenue moraline. Il me semble que ça, c'est un point aussi très essentiel, la question de la culpabilité et en même temps du fait que nous sommes responsables de nos actes.
Christian Merle.
Oui, alors le problème de la culpabilité, l'explique de la manière suivante. La culpabilité, c'est également, au début, si vous voulez, de la naissance de cette culpabilité, il y a aussi une notion de justice. Il y a une notion de justice. Là où l'homme, justement, se trouve en difficulté, c'est que lorsque cette culpabilité est exaltée. Vous voyez, la morale, si vous voulez, de Diel, c'est de combattre l'exaltation. C'est pas de combattre les désirs, c'est de combattre tout ce qui pourrait être des faux motifs.
Oui, l'exaltation vaniteuse, quand même.
Alors, l'exaltation vaniteuse, c'est effectivement la terminologie dialienne.
La démesure, d'une certaine manière.
La démesure, la surestime de soi, vous voyez, ce que Diel appelle la vanité.
L'orgueil. L'orgueil, oui.
L'orgueil, oui. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que... très, très subtilement, Diel va chercher justement à trouver ce juste milieu, voyez. Et l'esprit, cette dimension spirituelle qui est en nous, va nous permettre, et c'est là son exigence, de trouver le juste milieu. C'est-à-dire, encore une fois, d'harmoniser nos désirs, selon la mythologie grecque. En sachant que le pas évolutif a été fait également avec le christianisme. Il y a un pas évolutif dans lequel... Pour ce qui est du christianisme, il y a un pôle évolutif qui consiste à dépasser cette harmonisation des désirs pour essayer, si vous voulez, de vaincre ces désirs refoulés. Vous voyez ? Il y a quelque chose en plus dans la dimension chrétienne de l'existence. C'est-à-dire, dans la dimension... mythologie grecque, il y a une harmonisation, une tendance à l'harmonisation des désirs, tandis que dans l'approche du christianisme, il y a en plus l'idée, et c'est l'idée d'ailleurs de l'histoire du mythe chrétien, hein, cette idée, eh bien, c'est que le Christ donc meurt à ses désirs exaltés, il meurt à ses refoulements, pour finalement renaître dans une dimension harmonisée. C'est ce que dans le mythe on appelle, eh bien, le retour au ciel. Le retour au ciel n'est pas évidemment un retour, mais c'est un retour au ciel intérieur. C'est-à-dire dans cette dimension de joie intense provoquée par le fait que, eh bien, tous ces désirs exaltés ont été finalement dissous.
Est-ce qu'on pourrait parler de sublimation ?
Alors c'est le terme que Diehl utilise, hein. C'est-à-dire que dans le mécanisme de délibération, il y a deux éléments clés qui sont justement par une sorte d'autodistanciation de spiritualiser, c'est-à-dire de clarifier la situation. Est-ce que je succombe à mes désirs matériels ou est-ce qu'au contraire j'essaye de les harmoniser et de faire une sorte de hiérarchie de mes désirs pour me calmer, voyez ? Ça, c'est ce qu'il appelle la spiritualisation, suivie de la sublimation, c'est-à-dire que je prends l'énergie émanant de ces différents désirs pour justement la mettre dans cette harmonisation, hein, éventuellement. Et puis alors, dans cette harmonisation, mais aussi, si en ayant suffisamment de force, comme a pu l'avoir Jésus dans le Nouveau Testament, en ayant suffisamment d'élan animant pour pouvoir vaincre, justement, et ses désirs refoulés et finalement se purifier, quoi.
Alors Pierre Canouy, j'aimerais qu'on parle un peu de l'aspect pratique. C'est-à-dire que vous êtes l'un et l'autre psychothérapeute, vous-même vous êtes aussi psychiatre. Donc comment concrètement se passe une thérapie selon la psychologie de la motivation de Paul Diehl ?
Alors, la psychothérapie de Paul Diehl, c'est essentiellement une psychothérapie dialoguante. C'est une psychothérapie dialoguante et introspective. Il y a quelque chose d'important, c'est que dans cet échange, on ne va pas privilégier un axe uniquement sur la dimension exclusivement de la pulsion sexuelle, mais aussi toutes les dimensions de la vie, matérielle et spirituelle aussi. Et puis aussi, il y a cette dimension importante que le psychothérapeute n'est pas simplement dans une position d'écoute. La position d'écoute est fondamentale et la posture d'écoute du psychothérapeute est essentielle. Mais il va aussi, je dirais, essayer de s'engager avec l'autre. De s'engager avec l'autre, d'une part à partir de ce qu'il va dire, et puis peut-être lui faire des propositions, et quelquefois même des interprétations par rapport à ce qu'il va pouvoir penser à l'autre, de s'en saisir. C'est un petit peu ce qu'on dit à l'autre, de s'en saisir et de voir comment il va pouvoir sentir, c'est là la position introspective, à partir de ce qui est dit, de ce qui est pensé, ou quelquefois de ce qui n'est pas dit. Les silences sont quelquefois aussi importants que les paroles. Eh bien, il va pouvoir se saisir de cette dimension-là. L'autre aspect complémentaire, c'est l'aspect de travail par rapport sur les rêves et puis sur qui a dans cette Diehl a élaboré un travail sur les traductions de rêves inspiré justement de la symbolique des mythes et de la symbolique des rêves. Et là aussi, on invite la personne à aborder cette question de ses rêves, de raconter ses rêves, d'abord de les saisir, c'est pas toujours très facile de saisir ses rêves, et puis d'accepter de les aborder, et puis d'essayer de dérouler un petit peu ce théâtre de conflit intérieur, de cette délibération interne qui se passe dans nos rêves, avec cet outil développé, ces outils psychiques qu'il a développés, et ces outils aussi théoriques qu'il a développés.
Et alors, est-ce qu'une des dimensions de la psychothérapie, c'est d'aider les gens à trouver ou à donner un sens à leur vie ?
C'est une dimension fondamentale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement qu'une adaptation à l'extérieur, mais une adaptation au sens de ce qu'il pense. Et quand on est face à une personne, on ne sait pas qui est l'autre, d'abord, et on ne sait pas jusqu'où il est capable d'aller, et souvent lui-même ne sait pas non plus. C'est-à-dire cette dimension de que la personne puisse comprendre que même alors qu'il se trouve dans des situations, où il pourrait ne pas penser qu'il n'est pas dans des questions existentielles, et bien souvent, on a derrière ça des questionnements qui peuvent être d'une profondeur importante. Et justement, l'ouverture de la pensée d'elle nous permet d'aborder cette question-là sans les mettre de côté. que ce soit l'angoisse de la mort ou l'angoisse de l'existence.
Christian Merle.
Oui, j'ajouterais que, en tant que thérapeute, il y a nécessité aussi d'analyser le monde vécu de la personne. C'est-à-dire, on reste dans la situation concrète de son existence également. Voyez. Parce que l'idée majeure de la thérapie, c'est aussi de faire concorder le monde intérieur de la personne avec l'extérieur. Autrement dit, de faire en sorte que la personne, eh bien, accorde ses désirs avec leur réalisation dans l'ambiance, dans le monde extérieur, vous voyez. Et donc, l'idée, c'est aussi de faire appel aux ressources, aux dons, aux ressources de la personne, pour pouvoir faire en sorte que celles-ci, que ces ressources, soient déployées dans le monde extérieur. Et c'est ce que dit Diel, mais si on est en accord, si nos désirs, donc dans le sens évidemment spirituel, c'est-à-dire dans le sens de la dimension de donner un sens à sa vie, hein, eh bien si on est en accord avec ce sens, eh bien on va être en vérité avec soi-même et en plus on va être dans une harmonisation avec le monde extérieur, ce que Diel appelle l'amour. Donc on a à la fois la vérité avec soi-même et qui va entraîner l'amour, si vous voulez. C'est une des définitions, en tout cas celle de Diel, de l'amour. Voyez.
Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que la question de la lucidité semble être le point essentiel, même qui mène à la guérison, parce qu'après tout, quelqu'un qui entre en thérapie, c'est parce qu'il est en souffrance. Donc l'idée, c'est que, si j'ai bien compris, c'est qu'à travers la lucidité, on arrive à s'aimer soi-même, d'abord, et par conséquent à aimer les autres, et qu'en fait, ça dénoue des problèmes qu'on peut avoir par ailleurs, même très profonds, enfin très sérieux. Pierre Cadouille, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, vous avez posé le mot juste, c'est-à-dire que cette lucidité, elle n'est pas simple. Je veux dire, nous sommes des grands aveugles par rapport à nous-mêmes. Et je pense que ce qui va nous... On a des multiples raisons, d'être aveuglés. Parce que le problème, c'est qu'on... Vous savez bien, c'est une phrase connue, c'est-à-dire qu'on peut faire le mal alors qu'on pensait faire le bien, et on peut faire le bien alors que vous connaissez cette phrase. Eh bien, je crois que cette exaltation de nos désirs, qui est naturelle, va faire qu'on va perdre une forme de lucidité sur soi-même. C'est pour ça aussi que probablement notre société actuellement est peut-être en grande souffrance parce qu'on n'a pas de temps pour se poser quelque part. On a finalement... Quels sont les lieux où on se pose ? C'est souvent les lieux de la psychothérapie. C'est les seuls moments, finalement, où on se pose et on accepte pendant un temps, trois quarts d'heure ou une heure, de poser les choses et puis de pouvoir penser sa vie. Et donc ça, c'est par ce biais-là que aussi on s'accorde aussi de ne pas voir clair. La première chose, c'est de s'accorder de ne pas voir clair et de me tromper. Mais ça, on ne va pas le dire à grand monde. On va le dire quelquefois de soi à soi et quelquefois dans ce cadre qu'on a posé de la psychothérapie. Donc cette réflexion, elle doit être un petit peu ouverte et tolérante.
Yeah.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie de Christian Merle et Pierre Canoui. Nous parlons de Paul Diehl et de la psychologie de la motivation. Alors, moi j'étais frappé de voir à quel point Diehl insiste aussi sur la question de la peur, sur la question de l'angoisse. Au fond, on pourrait dire que selon Diehl, tout le chemin, tout le parcours que doit mener l'homme, c'est de passer de l'angoisse à la joie, ou de la peur à l'amour, pour le dire autrement.
Paul Diehl pose l'angoisse de façon très différente. Il ne le pose pas de façon pathologique. Il y a une angoisse pathologique.
De manière existentielle.
Mais il la pose de façon existentielle. C'est-à-dire que mes angoisses, mes inquiétudes, elles sont peut-être des boussoles de ma vie. Et dans notre société, qui peut-être veut gommer toute cette dimension d'angoisse, peut mettre des individus en grande difficulté. Et c'est justement cette écoute, être capable d'écouter cette inquiétude existentielle, ou cette angoisse comme étant quelque chose qui peut être une espèce de boussole, comme la douleur peut être une boussole par rapport aux agressions que je peux avoir sur le plan physique, des alertes, eh bien l'angoisse pensée par Paul Diehl, ou vue dans sa pensée, elle a pour fondement de nous dire « attention, il y a quelque chose qui ne va pas ». C'est une vision complètement différente de l'angoisse de la psychanalyse, c'est une vision complètement différente d'autres pensées, en particulier psychanalytiques. Cette pensée de l'angoisse, elle est structurante pour l'être humain. Être capable d'être face à ses angoisses, aussi bien à ses angoisses de vie quotidienne que des angoisses plus profondes par rapport à la vie. L'angoisse la plus profonde étant bien entendu
l'angoisse de la mort
qui, avec certaines psychothérapies humanistes, Diehl la pose comme quelque chose de fondamental. Et ça, vous le savez bien, ici, dans l'émission, que vous abordez souvent ce thème-là. Mais il la pose sur le plan psychologique, introspective et de façon, je dirais, comme faisant partie de notre existence.
Alors, à la fois, oui, on entend bien, ça, c'est quelque chose de... c'est un fondement anthropologique. L'homme a cette inquiétude existentielle, il a peur de la mort, il se pose des questions. L'angoisse, comme vous l'avez dit, est une alerte qui lui montre que quelque chose ne fonctionne pas bien en lui, donc il va l'amener à une rectification. Mais est-ce qu'il pense que le but de la thérapie, c'est quand même à un moment donné que l'angoisse ne soit plus présente pour être dans un état de sérénité et de joie? Christian Merle.
Oui, parce que cette angoisse, elle a aussi pour origine la non-réalisation du désir essentiel. Vous voyez, l'homme devient angoissé parce que finalement, ce qui appelle en lui cet élan animant n'est pas satisfait. Vous voyez, donc, et c'est ce qui amène à consulter finalement. Et le but de la thérapie, c'est justement, d'arriver progressivement en s'appuyant et donc en découvrant les ressources de la personne. D'abord, en découvrant les ressources de la personne et en s'appuyant sur ces ressources pour retrouver finalement un fil conducteur à sa vie et redonner sens à celle-ci. Voyez.
Alors, puisque vous parlez du sens de la vie, est-ce que vous pourriez nous dire un mot de ce que ça représente chez Paul Diehl par rapport à Viktor Frankl, puisque vous êtes aussi logothérapeute? On a beaucoup parlé donc effectivement du sens de la centralité du sens de la vie dans la thérapie selon Frankl. Est-ce que c'est la même chose chez Paul Diehl?
In fine, c'est la même chose, in fine. Mais les deux approches sont, j'allais dire, presque opposées. Dans le sens où, dans l'approche de Frankl, on est dans une approche prospective. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux intentions de la personne. On ne va pas aller chercher quels sont les déficits de celle-ci. Hein, on va en avant, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver l'identité de la personne et à partir de là, de découvrir ses ressources et de découvrir, et non pas de donner, hein, de découvrir un sens finalement à sa vie en tenant compte de ses ressources. Tandis que dans la dimension de la psychologie de la motivation, on fait un travail introspectif par rapport au travail prospectif. Vous voyez, on fait un travail introspectif, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, finalement, on va essayer de décrypter, hein, de déceler ce qui se passe dans le monde intérieur de la personne pour finalement redonner, pour réharmoniser. Et c'est cette réharmonisation qui va, eh bien, faire en sorte que la personne va mettre à jour, si je puis dire également, comme pour Frank, dans la dimension de la logothérapie, mettre à jour, eh bien, le sens qui est le sien, le sens de sa vie.
Pierre Canoui,
je vais donner une image. Parce que souvent les images parlent un peu plus, enfin parlent différemment, pas un peu plus, mais différemment, parce qu'elles ont aussi leurs limitations. Je prends souvent l'image du puzzle. C'est-à-dire que nous avons deux choses. Le problème, c'est qu'on est livré sur la Terre sans mode d'emploi. C'est ça qui est un petit peu compliqué. les enfants nous sont livrés sans mode d'emploi et aux parents de se débrouiller. Ça, c'est toute la dimension de l'éducation et la difficulté. Et nous sommes nous-mêmes livrés sans notre mode d'emploi. On n'a pas de notice. Donc, il va falloir qu'on trouve notre notice, notre manière de penser. Certains sont plus angoissés, d'autres sont plus... Bon, on a différents. Et alors, donc, cette dimension... Je prends l'image du puzzle. C'est-à-dire que souvent, à certains moments de la vie, les différentes parties de notre puzzle intérieur sont un petit peu disjointes, ou se chevauchent, ou ne marchent plus très bien. Et même quelquefois, il y a des morceaux de puzzle, des morceaux du puzzle qu'on ne connaît même pas, et qui sont pourtant là, et qui sont en train de nous faire du mal. Et donc, l'image peut-être de l'harmonisation ou du lien dont je parlais tout à l'heure, c'est d'essayer de remettre les différents puzzles, morceaux du puzzle de notre vie en ordre. Oh, pas parfaitement, parce que là aussi, c'est un grand danger que Dieu sait si les ismes de la religion nous ont bien menés dans les perfections ou le parfait, etc. Mais d'arriver à faire que tous les différents morceaux du puzzle de mon existence, de moi et de ma relation avec les autres et de ma relation au monde puissent prendre place. Et là, c'est un projet, c'est quasiment un projet éthique. C'est un projet éthique. Le projet éthique, il peut se définir comme ça. C'est-à-dire que le sens de la vie ne m'est pas donné de l'extérieur, mais il m'est donné dans cette idée de refaire de ma vie que les morceaux du puzzle puissent tenir. Et puis ça peut se casser, et puis ça peut redémarrer. Et ça aussi, c'est une forme d'acceptation, de dire, au fond, il peut y avoir des fluctuations. C'est toute la pensée, je dirais, dynamique de la pensée de Paul Diehl, qui n'est pas dans un absolu, mais absolu, sans solution. C'est, le problème, c'est d'avoir cette dynamique que ce puzzle, mais sachant que ce puzzle, on va l'organiser une fois, il va pouvoir se défaire, et puis on va se servir de cette force-là, il y a un renforcement intérieur de ça. Donc cette image est peut-être plus parlante que ce mot d'harmonisation qui est un petit peu difficile et un petit peu lourd par certains aspects, où il peut paraître lourd, et pourtant, il a une beauté en soi-même.
Oui, et ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est qu'il dit sans cesse que tout n'est pas joué. Alors on nous avait dit, quand on a eu nos enfants, on m'avait dit tout se joue entre 0 et 6 ans et après c'est terminé. Évidemment, j'ai le regret de ne pas avoir lu, il y a un certain nombre d'années de cela, ce livre magnifique qui s'appelle « Le besoin d'amour, hein, tendresse, estime, autorité dans l'éducation des enfants ». Parce qu'évidemment, là, c'est vraiment un livre extraordinaire sur l'éducation. On devrait vraiment le recommander à tous les jeunes parents, mais aussi aux plus vieux parents dont je suis. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit qu'il n'est jamais trop tard. Il est toujours temps de réévaluer. Il est toujours temps de réharmoniser. Il n'y a pas... Vous disiez que sa pensée est fluide. Elle est aussi une proposition que l'être humain est fluide. Et l'être humain est sans cesse, jusqu'à sa mort, est rééducable.
Mais vous savez, c'est une question de tous les jours. Puisque finalement, ce que Diehl fait, c'est nous raconter dans nos mécanismes de délibération, dans nos fonctionnements psychiques. Donc ces fonctionnements psychiques, ils sont, c'est tous les jours, hein, évidemment, quoi. Tous les jours, on a à faire des choix. Donc c'est pour ça que c'est pas temporel, quoi, d'une part. Hein. Et d'autre part, c'est vrai aussi, par contre, que à force de faire ce travail introspectif d'élucidation dont vous parliez tout à l'heure, hein, eh bien, à force de faire ce travail, on acquiert une expérience. Et je veux dire, ça devient un petit peu systématique, vous voyez, de faire cette expérience d'élucidation et puis de spiritualisation et de sublimation, vous voyez, des désirs. Hein.
Alors, je voudrais quand même pas que nous terminions cette émission sans avoir lu un extrait de Psychologie de la motivation. C'est un extrait que vous avez choisi, Christian Merle, et c'est un très bel extrait sur la question de la joie. Et avant de le lire, je voudrais dire à quel point ce texte me fait penser au portrait de Paul Diehl qu'il y a aux éditions Payot, justement, dans ses œuvres. C'est un visage d'un homme habité de joie. Hein. Il a un sourire qui est vraiment magnifique et qui correspond tout à fait à ce qu'il dit dans ce texte. Alors évidemment, nos auditeurs, il faudra qu'ils aillent voir aux éditions Payot à quoi ressemblait ce sourire de sage de Paul Diehl. Quelles que soient les capacités reçues, l'homme est soumis à l'impératif biologiquement immanent de les développer. Il doit ajouter au don le mérite. C'est la tâche de la vie. L'homme jouit de la vie dans la mesure où il remplit cette tâche. La joie de la vie est le sentiment de la force vitale en pleine action, du désir essentiel en libre fonction. Elle est la sensation de l'élan vital dont l'homme est animé, qu'il doit déployer et faire évoluer. plus grand est le don, plus lourde est la tâche, mais aussi plus profonde est la joie. L'élan de la vie déployée et évoluée deviendra le contraire de l'exaltation malsaine. L'enthousiasme à l'égard de la vie, la joie la plus intense, le sentiment d'avoir satisfait la vie et d'être satisfait par la vie. C'est la réussite essentielle, le sort intérieur, indépendamment du sort accidentel et extérieur, sort dont l'homme est le maître ou devrait l'être. C'est la responsabilité devant la vie.
Alors j'aimerais qu'il reste 3 minutes pour terminer cette émission. J'aimerais que vous nous parliez un peu l'un et l'autre des livres de Diehl. Alors on ne va pas parler des livres qui concernent la symbolique parce que nous allons consacrer une prochaine émission à la symbolique puisque nous avons vu que l'œuvre de Diehl était extrêmement vaste et on s'est dit qu'on allait diviser finalement en 2 émissions cette œuvre. Cette émission que nous avons fait avec vous aujourd'hui sur la dimension plutôt philosophique et psychologique, et puis nous consacrerons la semaine prochaine une autre émission à Paul Diehl qui étudiera la dimension symbolique, notamment à travers la mythologie celte et à travers l'interprétation symbolique de la Bible et des évangiles. Concernant plutôt la philosophie et la thérapie, quels sont les 2-3 livres que vous pourriez conseiller à nos auditeurs ? Commencez avec vous, Pierre Canoë.
La psychologie de la motivation et l'ouvrage dans lequel... qui est un ouvrage un petit peu difficile à lire. Il faut prévenir les auditeurs. Mmh. C'est pas un ouvrage très facile à lire. Celui dont vous avez parlé, Le besoin d'amour, est beaucoup plus accessible, hein, avec une écriture qui est un petit peu plus difficile, celui-là. Mais il pose les fondements de la pensée.
Donc la psychologie de la motivation.
La psychologie de la motivation. Ouais. La peur et l'angoisse est un livre, moi, qui m'a bouleversé quand j'étais jeune étudiant, parce qu'il a posé justement ce dynamisme évolutif de l'angoisse et de montrer que l'angoisse n'est pas quelque chose qu'il faut absolument éliminer par des comprimés ou par des... Mais c'est l'angoisse a quelque chose de structurant dans la nature. Donc la peur et l'angoisse, c'est le phénomène central, comme phénomène central de la vie, est un livre intéressant. Vous avez parlé d'éducation et de la rééducation, qui est un livre qui est facile, d'abord facile, et qui est un outil tout à fait intéressant, bien qu'il soit paru en 1961. Et je crois que Christian Merle voulait aborder.
Mais oui, parce qu'il y a aussi les livres qui sont édités récemment, c'est-à-dire notamment celui dont vous parliez, « Le besoin d'amour », avec une préface de Marie-Jo Graner, me semble-t-il.
En tout cas, celui-là, vraiment, je le recommande. Il est passionnant à lire pour toute personne qui a affaire avec l'éducation des enfants.
Avec une préface, excusez-moi, mais c'est une préface de Armen Tarpignan. Mmh. Donc, et vous avez donc également d'autres livres qui viennent de paraître récemment.
Pensez ça. Il existe un livre sur Paul Diehl et sa pensée qui essaye de faire une synthèse.
Alors, Alain Babelier a écrit un livre qui s'appelle « L'homme et ses motivations, la psychologie de Paul Diehl », qu'il a écrit aux éditions Retz et qui fait la synthèse de la pensée de Paul Diehl, qui est un livre très abordable et qui a l'avantage d'une clarté dans la lecture.
Bon, bah écoutez, c'est parfait. Marie Dalquier nous remettra tous ces livres sur notre site internet, comme ça vous pourrez les retrouver. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de Paul Diehl aux racines du ciel. Merci à vous.
Merci.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélian Var. La semaine prochaine, nous poursuivrons cette émission sur Paul Diehl en parlant de la symbolique des mythes avec Janine Solotareff et Hervé Toulouat. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.